La rosée.
Une émission culture et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live, tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h, sur Radio Galère 88.4.
Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes le lundi 20 avril, il est 16h30. Vous êtes sur L'Art Osé, une émission culturelle, théâtre, musique, des lives, des invités, des interviews, mais pas que. Également des réflexions humaines, politiques, sociales. Vous êtes sur Radio Galère 88.4. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérémy Béchon.
Bonjour tout le monde.
Jérémy Béchon, tu es auteur, metteur en scène de théâtre et écrivain également. La dernière fois, nous t'avons reçu pour parler de la sortie de ton premier roman.
Mmh, L'éclat des fracas,
aux éditions Kiro. Et aujourd'hui, on te reçoit de nouveau parce que il y a des actualités marseillaises théâtrales prochainement.
Ouais, nous allons reprendre l'histoire universelle de Marseille d'après le livre de Alessi de Lumbria aux éditions Agon. Le 25 avril à 20h au Théâtre du Millefeuille, qui est notre lieu de création partagé à la Porte d'Aix. Et à la suite, nous jouerons aussi l'histoire d'un enfant du pays qui s'appelle Marius Jacob. La pièce s'appelle Marius Jacob, un Arsène Lupin en chair et en os, que nous jouerons le 5 mai à 18h30 à l'auditorium de l'Alcazar à Belzunce.
Et alors ces deux pièces de théâtre, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ton travail théâtral, de la manière dont tu abordes le théâtre? Le collectif Manifeste Rien, dont tu es le directeur artistique, est un collectif de théâtre qui se base sur des faits en général réels et qui, à travers ces faits-là, vient créer une histoire parfois fictionnelle, parfois moins, mmh. et qui a un ancrage assez fort au niveau du lieu, au niveau géographique. Et qui...
Oui, je suis co-directeur du collectif Manifeste Rien, puisque je le co-dirige avec Virginie Aymon, qui joue dans l'histoire universelle de Marseille. Et puis, il y a aussi le travail de théâtre d'ombre de Leslie Logero et Cyril Laurent. Pour tout ce que je mets en scène et que j'adapte, effectivement, ce sont toujours à partir de faits réels. Mais de faits réels qui sont pris d'abord par l'analyse d'historiens, de sociologues et d'anthropologues. Et ce sont toujours des livres ou des recherches qui m'ont fortement touché, percuté, et que j'ai voulu redistribuer sur scène par le médium du théâtre, en utilisant les cultures populaires, que ce soit le mime, la comédia dell'art, les cultures hip-hop ou rock. On s'interdit aucun des langages sur scène, d'être le plus libre possible pour être par contre le plus simple et le plus divertissant, puisque le théâtre reste quand même un divertissement, le plus plaisant pour le spectateur. Et voilà, l'histoire universelle de Marseille, on pourrait dire que c'est un de nos tubes. Ouais. Depuis quelques années maintenant, ça a été dur de le proposer, parce que sur le milieu du théâtre, c'était quelque chose qui était renvoyé à la Pagnolade, même si Pagnol est un grand dramaturge au passage. Mais là, il s'agit d'une toute autre version de l'histoire, un autre rapport à la littérature qu'entretient Alessi de Lumbria, qui est l'auteur du livre éponyme, et qui est un renversement du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire que ne plus voir l'histoire seulement du point de vue national, de la construction de l'État-nation et de la France en l'occurrence, mais voir cette histoire-là du point de vue particulier de la ville où il est né et de la ville où on travaille, qui est donc la ville de Marseille.
Alors, Histoire universelle de Marseille, une pièce qui du coup se jouera le 25 avril au Théâtre du Millefeuille à 20h, théâtre qui se situe dans le Panier. Et alors dans le communiqué...
Non, qui se situe à la Porte d'Aix.
Ah, ouais, mais on est à la Porte du Panier aussi.
On n'est pas loin du Panier, mais
excusez-moi,
c'est à la Porte
d'Aix. Alors, pardon. On est vers les Grands Carmes.
C'est ça.
C'est pas vraiment le Panier.
Les Hauts du Panier.
Ah, pardon. On a ce point-là de chauvinisme dans les Grands Carmes. Dans le communiqué de presse, Histoire universelle de Marseille, première phrase qui apparaît, 1000 ans d'histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce dispositif scénique?
Le dispositif scénique, c'est celui qui repose essentiellement sur l'acteur, et là en l'occurrence sur l'actrice, la comédienne Virginie Aimone. C'est un plateau nu, comme il est dit, comme vous venez de le dire. Il y a un pupitre sur scène, qui est le pupitre qui symbolise justement ce livre, ces archives, sur lesquelles on s'appuie tout le long de la pièce, même si c'est une réécriture dramaturgique complète, parce que le livre couvre 1000 ans d'histoire et la pièce fait 1 heure. Donc bien évidemment, il a fallu faire des choix drastiques pour quelle ligne rouge choisir dans cet ouvrage-là, et comment être le plus fidèle à l'émotion de lecture, moi, que j'ai eue du livre il y a des années de ça, même si je l'ai lu en plusieurs fois et maintes fois depuis. C'est une version qui n'a pas arrêté de s'enrichir au fur et à mesure où elle a été interprétée également. Et le principe, c'est une Marseillaise qui revient dans sa ville et qui ne reconnaît absolument plus rien de ce qu'elle a connu. Et c'est vrai que les Marseillais, c'est un sentiment qu'on a très souvent, c'est-à-dire que de revenir d'une place sur l'autre, les transformations urbaines, les dites mutations urbaines qu'Alessi Dell'Umbria et moi-même nommons des destructions urbaines, puisqu'elles font en général très peu de cas de la mémoire historique. Alors la mémoire sur le patrimoine historique, maintenant c'est à la mode, puisqu'avec la mode actuelle de la ville, ça ne signifie pas la fin du mépris pour nous, bien au contraire, mais qui fait fi, qui perd complètement l'aspect des mémoires et des luttes. Et pourquoi la ville ressemble à cet espace souvent de déréliction, d'abandon, et du fait que les Marseillais sont sans cesse chamboulés dans leur propre rapport à leur ville, même si le sentiment d'appartenance est très fort. Ensuite, le dispositif scénique, pour revenir à la forme, c'est celui qui libère de manière la plus virulente, j'allais dire, mais la plus explosive, l'énergie de la comédienne au plateau. Et elle joue plusieurs personnages, comme c'est souvent le cas dans nos pièces. Cette narratrice-là, cette Marseillaise qui est complètement chamboulée par l'esplanade, notamment du J4, par l'éruption de ce Mucem, qui pour elle est un bubon de béton et qui lui empêche la vue sur la digue, sur le large auquel elle avait droit tous les jours. Et ensuite, elle va nous raconter de ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été cet espace urbain qui, pour nous, est beaucoup trop autoritaire et empêche les gens de pouvoir se perdre et de réellement se mélanger dans un mélange de classes sociales. Et elle va opposer à cette version du territoire qui est une version hiérarchique, parce qu'il faut savoir que, par exemple, le Mucem, qui peut être une fierté pour certains Marseillais, moi je le comprends, même si je ne le partage pas, mais je comprends parfaitement ce point de vue, mais ce sont des choses qui sont décidées par les aménageurs de territoire. Et cet aménagement du territoire vient d'un côté très centraliste, vient de Paris, même si les élites marseillaises en sont imbibées aujourd'hui, mais c'est une vision qui impose une vision du territoire et une manière de l'occuper, avec donc cette division hiérarchique du pouvoir. À l'inverse de ce concept-là, il y avait le concept de la cité, la cité de Marseille, qui a créé la première république, la res publica, la chose publique, au Moyen-Âge, avec le corps des 100 chefs de métier. Et donc cette première république, qui était beaucoup plus démocratique, puisque c'était directement les pêcheurs, les artisans, les tisseurs de soie, tous ces gens-là qui se réunissaient pour mettre en avant les statuts de la ville, donc c'était aussi un contre-pouvoir ecclésiastique qui était très fort. Ce pouvoir-là va être très vite renversé par Charles d'Anjou, par exemple, au XIIIe siècle, parce que c'était le tout début de cette république naissante de Marseille. Elle va être écrasée par Charles d'Anjou, qui est un capétien. Alors, on a appris à l'école ce que c'était un peu les capétiens. Moi, ça me rappelait vaguement quelque chose. Mais là, on voit cette force d'annexion de Paris, en l'occurrence, de l'Empire de France naissant sur qui est une forme de colonisation. C'est-à-dire qu'on a d'abord colonisé Marseille avant de coloniser l'Algérie, avant de coloniser les Indes, avant de... Et Charles d'Anjou va complètement renverser cette république naissante. Et des premières choses qu'il va faire, c'est dissoudre les traités de la ville qui donnaient aux habitants un droit de cité, et il va en expulser les Juifs. Je trouve que c'est extrêmement parleur comme exemple de voir une minorité religieuse qui pouvait exister dans l'enceinte de Marseille. Il va être expulsé du jour au lendemain par ce pouvoir central capétien qu'on nous présente à l'école comme étant fédérateur. Et c'est une fédération qui est extrêmement violente. Et voilà, la comédienne joue sans cesse les résistances de la ville. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être Charles de Cazaux qui a au XVe siècle créé un système pré-communiste. Qui a mis en place l'Hôtel Dieu à Marseille, qui était à l'époque pour accueillir les malades et qui maintenant est un hôtel de luxe. Donc on parle de ces transformations sans cesse de la ville qui échappent sans cesse aux Marseillais et aux Marseillais les plus pauvres, bien entendu. Mais elle va jouer aussi Henri de Navarre. Henri de Navarre qui a réussi justement à tuer ce Charles de Cazaux. Donc elle joue sans cesse cette ambivalence des personnages entre ceux qui l'oppressent et les Marseillais qui résistent. Ça peut être aussi des poissonnières qui sont allées jusqu'à défendre, prendre d'assaut le Fort Saint-Jean et viscérer son commandant en disant qu'il veut de la tripe chaude, qu'il veut de la tripe fraîche. Donc voilà, c'était des émeutes qui étaient extrêmement, extrêmement violentes aussi à l'époque, même s'il y avait toujours le sens du panache, à mon sens. Et la pièce finit par... ce qu'on appelle, nous, cette destruction de Marseille qui ne s'arrête plus, qui fait qu'on en vient à en avoir un exil qui est sur place. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste d'une ville quand sa mémoire a été effacée, puisque la mairie de Marseille, dans les années 1930, a fait sauter des quartiers entiers, qui a donné naissance à un autre bubon, qui est celui de du centre commercial.
Du centre-bourse,
merci.
Le
quartier de la Blanquerie, qui était le quartier le plus peuplé de Marseille. Et ils l'ont fait sauter sans même savoir ce qu'ils feraient à la place. Et quelques années plus tard, toute la rive nord du Vieux-Port, qui va également être entièrement dynamitée, des hectares. Alors, ce sont les nazis qui ont allumé le feu d'artifice. Mais les plans étaient faits par les Marseillais, notamment Castel, qui a construit les Baumettes de Marseille et l'Opéra. Donc on voit aussi cette ambivalence dans la culture en permanence, mais Castel, pour lui, c'était pas un problème. Il voulait se débarrasser de la plèbe et de l'infamie. C'est comme ça qu'il nommait les Marseillais des quartiers populaires. Voilà, et ça finit sur cette destruction jusqu'à aujourd'hui, où on utilise aussi la poésie de Carlotti, de Victor Gélu, pour partager ce sentiment, encore une fois, de qu'est-ce qui peut rester une fois qu'on a perdu jusqu'à notre propre langue, puisque Marseille a parlé provençal extrêmement longtemps. Il y a encore des Marseillais, Alessie Delombria parle d'ailleurs couramment le provençal maritime aussi, mais ça reste très minoritaire, c'est revenu avec les Dupin, avec les Massilia Sound System. Et voilà, avec l'histoire universelle de Marseille, pour moi, on fait cette même chose au théâtre, c'est-à-dire de rendre une culture première, même si on n'est pas né à Marseille, par ailleurs. Moi, mes parents ne sont pas nés à Marseille, moi, oui, mais j'ai eu très, très vite ce sentiment d'appartenance très, très fort. Et pourquoi ? Et de rejet, cette ambiguïté aussi, d'être très fier de sa ville et à la fois d'en avoir honte, ou en tout cas de la détester. Très souvent, quand on veut s'auto-détruire soi-même, beaucoup de Marseillais ont rêvé de voir leur ville brûler. Enfin, c'est quand on cherche dans l'imaginaire des artistes et des gens, c'est quelque chose qui revient, cette ambivalence, cet amour et ce rejet de la ville et de soi-même.
Alors toute cette histoire, cette longue histoire qui parfois peut nous sembler loin de nous, difficile à comprendre, difficile à apprivoiser. La comédienne Virginie Aymon, moi qui ai vu le spectacle je crois deux fois, elle la raconte, elle la tient, elle la maîtrise, elle en joue avec une grande virtuosité, c'est très agréable, on est avec elle, il y a un côté... Elle casse le quatrième mur, elle est avec nous, elle nous raconte ça, ça pourrait être une amie, et en même temps, on part comme une conteuse. Mmh. Elle le fait très bien, c'est pas évident de raconter tout ça. Et du coup, toutes ces raconter cette ambivalence populaire, bourgeoisie, cette réflexion sur le pouvoir, sur la démocratie, sur qui fait la ville, qu'est-ce qu'est une ville, ça me fait aussi penser à la phrase de Baudelaire, qui est magnifique, cette phrase qui dit Baudelaire qui a connu des quartiers parisiens entiers détruits pour faire des énormes boulevards à l'époque où Haussmann, sous Napoléon, il faisait des énormes boulevards à Paris. Il a dit « La forme d'une ville, hélas, change plus vite que le cœur d'un mortel. » Et alors toi, Jérémy, en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène, comment tu penses que... Parce que la destruction, des fois, c'est aussi la construction. Et surtout, la destruction, c'est aussi quand on efface la mémoire. Et souvent, pour effacer la mémoire, il vaut mieux reconstruire. Parce que quand on a détruit le quartier de la Blanquerie, pendant 30 ans, c'était un terrain vague. Les gens pouvaient se poser la question. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Mais maintenant qu'il y a un centre-bourse, il y a quelque chose. On oublie. On ne sait plus ce qu'il y avait avant. Alors, en quoi et comment tu te sers du théâtre ? Tu te sers de tout ça pour raviver cette mémoire, pour reconstruire sous les nouvelles constructions ?
Très sincèrement, moi, sur chaque mise en scène, il n'y a pas de plan de mise en scène, si ce n'est à chaque fois celui qui revient en permanence, qui est que le metteur en scène est le premier spectateur de son spectacle pendant des plombes et des plombes. Il faut répéter pendant à la table, au plateau, à la table, et revenir sans cesse essayer. Et moi, c'est à chaque fois que le comédien ou la comédienne me fait rire, à chaque fois qu'elle m'emporte dans un imaginaire, à chaque fois que je revois vivre ces périodes du XVIIe siècle, du XIXe siècle, ou que je revois les personnages que je fréquente dans mon quartier ou que j'ai fréquenté dans d'autres quartiers, à chaque fois que cet imaginaire-là, cette dynamique de jeu se met en place, je prends, je garde. C'est comme ça que ce rapport au réel se fait, parce que une histoire aussi vieille soit-elle, donc là l'histoire de Marseille de l'an 1000 à aujourd'hui, se raconte toujours de là où on est, de l'endroit précis où on parle et de qui on est. Et je me sers toujours de cette fulgurance de l'individu et du comédien, de son charme, pour partager cet imaginaire-là. Après, sur la reconstruction, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est passé, après la destruction, on est passé au patrimoine. Et cette forme de patrimoine de la culture exclut aussi une large partie des habitations et de la vie culturelle locale, au sens de la culture. Pour nous, c'est très large. La culture, c'est la cuisine, la culture, c'est le sport, la culture, c'est la littérature aussi. Mais voilà, ce ne sont pas que des galeries à l'enfilade.
Oui, la culture n'est pas qu'un musée, quoi.
N'est pas qu'un musée. La muséification de la ville est sa nouvelle forme de destruction. Donc on part... Nous, on part de cette évidence-là qu'on a vécue et qu'on partage avec les spectateurs et spectatrices.
Alors, Histoire universelle de Marseille, c'est le 25 avril prochain, samedi prochain, à 20h au Théâtre du Millefeuille. N'hésitez pas à y aller, c'est un très beau travail, cette complicité entre un metteur en scène et une comédienne. Très beau texte d'Alessida Lumbria. Histoire universelle de Marseille, j'imagine qu'il y a plein de choses dont tu ne nous as pas parlé, des petites pépites.
Il y a beaucoup aussi d'improvisation, c'est-à-dire quand tu parlais du spectacle que tu avais tant aimé deux fois, et je t'en remercie, je te tutoie au passage, pardon, je suis passé au-dessus, mais c'est parce qu'on travaille aussi beaucoup en improvisation, et dans chaque scène, il y a toujours au cœur de chaque scène d'abord une improvisation de la comédienne qui en général dure 35 minutes, une bonne improvisation. Et ensuite, moi, je note tout ce qu'il y a de magnifique dans cette improvisation-là, et on la réduit presque comme en cuisine quand il faut arriver au sucre le plus fort. Et à la fin, ça fait une dynamique de 2-3 minutes par scène, mais qui jaillit toujours d'un imaginaire qui s'est créé dans l'énergie totale et pas dans la réflexion. Ensuite, on revient placer les éléments de la réflexion une fois que la dynamique du jeu et d'amusement, comme les minots s'amusent à jouer, une fois qu'on a retrouvé ce principe-là de théâtralité.
Alors, n'hésitez pas à y aller samedi prochain, samedi 25 avril, au Théâtre du Millefeuille, à 20h, voir Histoire universelle de Marseille.
Et comme le Théâtre du Millefeuille, c'est la première fois nous qu'on joue là-bas officiellement, j'allais dire, parce que c'est notre lieu de création partagée. C'est là où on répète, où on mène aussi des ateliers avec les enfants, où on crée nos pièces professionnelles. Et c'est une petite jauge, c'est une très jolie salle. Et comme c'est une petite jauge, je vous conseille vivement de réserver sur Billets Réduc.
N'hésitez pas d'ailleurs.
Tout sur notre site manifesterien.com.
On passe le bonjour à Ken.
Et je le remercie infiniment.
Du Théâtre du Millefeuille. Restez avec nous parce que cette histoire universelle de Marseille, une petite partie de cette histoire plus récente, qu'il y a 1000 ans. Tu en as fait une autre pièce, et cette autre pièce sera jouée le 5 mai à la bibliothèque de l'Alcazar à 18h30. Ça s'appelle Marius Jacob.
Arsène Lupin en chair et en os.
Et alors ça, on en parle dans 5 minutes, après le son Marseille en vrai de Napo Rello.
Ah, Marseille, ces bonnes odeurs. Là, je vais aller au bar de Roland. C'est plus belle la vie. Ça, c'est le vrai Marseille, ça. Le bar du Mistral. Où il est sur cette carte? Messieurs, je me permets de vous importuner. Je cherche le bar de Roland, le plus belle la vie.
Le bar de Roland?
Oui, Roland. Je souhaite découvrir Marseille.
Mais ça, c'est le faux Marseille, ça. Tu veux voir c'est quoi Marseille en vrai?
Ah ben pourquoi pas?
Vas-y, viens, on y va.
Pas d'ici, hein?
Napo, R2P Néo. On vient de claquer le remix, arrive les sourcils français. Offensive Marseille, c'est le Napoli français. Dis-leur que le missile est lancé avec cette meuf du CVZOO. Génération Scarface, on a tous faim de sous. Ça ramènera pas nos morts, nos morts. Drama, le mort Hama depuis les ateliers de Namon. Ça te garantit pas les cieux d'habiter rue Paradis. On regarde la ville la nuit sur le parking de Notre-Dame. Au retour on s'arrêtera à la boulangerie de Baye. Je suis en direct des bivouacs. Si les stars se renseignent, dès le départ je t'en fais part. C'est département de l'Est.
Un peu moins que le sang se répand. La ville devenue un chantier. Sinon toujours rien, pourtant elle est grande.
Marseille,
toujours populaire, toujours élégante. Son gosse est sauvage quand il fait ses dames. Petite frappe nos ruelles. Elles ont chacune leur histoire. Je viens des années pollen. Génération shit squad, la Savine. Bivouac à RPL, chaque endroit. De l'OP à la plaine, du ref au 143.
Marseille,
j'ai son cœur à se bousiller la voix.
Petit frère a grandi avec la furie et la foi.
Ils disent ils sont fous ces mômes, alors qu'il est fou ce monde. Y'a toujours eu problème entre nous et la loi. Trop de frères au parloir, l'ambiance électrise, crois-moi. Multicolore comme la rue des Trois Rois. On a grandi ensemble, big up aux gens que j'aime qui y croient. Même quand y'a plus d'étoiles qui sentent dans.
Je continue de porter ma croix bleue et blanche aux couleurs du décor. Pendant que certains s'amusent, d'autres usent de la ruse dehors. Je me sens deux fois plus fort avec l'appui des notes. L'impression d'être porté par les quartiers, virage sud et nord. Dans tous les coins ça arrose, mets-toi à l'abri. Dans les rues de la Rose, tu sentiras ma vie. A jamais j'ai juré fidélité à ma ville. Ça je l'ai promis, je l'ai juré sur la tête à Basile. Avant que les haineux ne viennent prendre l'oseille. On a traîné la Champions League par ses grandes oreilles. Depuis tout ce temps, ils cherchent encore la route qui mène au trône. Tout le temps le boucan dans ce volcan appelé
Vélodrome. 3 sur la plaquette, hey, c'est le rap, c'est la frappe, c'est la gâchette. Pas de fierté qui s'achète, de Harla au bagne, on fait bouger les têtes quand on parle à nos bad boys. Hey, ventre-ville, quartier nord, quartier sud, Marseille, centre-ville, moitié or, moitié rue. Un salut Amazon, à tous mes gens de Berre, Vitrolles, Marignane, j'ai connu tant de frères. Encore debout, on pratique avec ou sans le bras long. À Porte-Bouc, à Martigues, à Miramas et Salon. On vient donner de la force à nos secteurs, pas sectaires, à tous les quartiers d'Aix, de Force, de Istres et Serre.
On m'a dit, représente le 13, alors je pars du 9 pour ceux qui ont pas flanché devant le regard. Une arme, t'as fait pour 1000 euros, tu l'as senti la vodka. Ouais, on t'a cramé comme une patrouille à la Yolka. Paris que la vie est belle, je la trouve plus belle sous vodka. Ici les petites blagues avec un maillot floqué Pogba. Je suis à la R, ça refait les comptes dans une allemande. Je mets le rap en Y comme sur le toit de Valmont. La Sova à Herbel, cher les baillets, ça va. Représenter la Fafa, des pommettes à la Fafa. Gibson, la peau, bleu et blanc sur le drapeau. Tenez-vous bien, y'a 13 000 chevaux sous le capot.
Marseille, the realness, the realness. Un salut aux anges et aux dangereux. Marseille, the realness. Et à tout ce temps, Marseille, the realness, the realness. C'est un salut aux anges et aux dangereux. Marseille, the realness, the realness. Dédié aux gens durs et à tout ce temps.
C'est le bar de Roland.
Oh fuck, le communo, c'est quoi ce maillot? T'es bien bon.
Merci monsieur.
Oui, quoi, il boit quoi? Il boit dans tous les verres, lui.
Oui, crête des gueules.
Le minou, il a un bon maillot, il est bienvenu. Là, tu es bien tombé. Là, tu es tombé dans une
drape. Des bisous.
Voilà. Là, tu as un boom, tu sais quand tu arrives, tu sais pas quand tu arrives.
Venez, mon ami.
Et c'était un son de Napo Rello en feat avec Kenny Arcana, REDK, Lafro, Dipson et DJ Soon. Voilà, Marseille en vrai, remix. C'est ça Marseille, c'est plein de choses, évidemment. Des fois on aime, des fois on n'aime pas, c'est normal. Et alors Marseille, c'est quand même une histoire politique, et politique au sens premier du mot politique, quoi. Régir la ville, hein, organiser la cité, comment on s'organise ensemble, comment on distribue les richesses, est-ce qu'elles vont à qui et comment, à tout le monde, qui les crée. Aujourd'hui, on entend souvent parler de ça, les grands patrons, c'est ceux qui créent la richesse, on oublie que les travailleurs et les gens qui travaillent dans ces entreprises, peut-être que c'est eux qui la créent vraiment la richesse. Alors, la prochaine pièce qui va être jouée très bientôt, le 5 mai, à la bibliothèque de l'Alcazar à 18h30, Marius Jacob, Arsène Lupin en chair et en os. Alors, qui est ce personnage de Marius Jacob ?
Marius Jacob, c'est un Marseillais, pour rester dans la thématique de l'émission, qui a un destin absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui naît à Marseille. Où est ma note ? Il est né quand ? Dans les années 1800. 1874-79, je crois, et qui meurt en 1954 à Rueil. Et entre-temps, il va être mousse dès ses 11 ans. Il va prendre le large dès ses 11 ans. Typographe à 18 ans. Il va tomber dans un piège tendu par la police, dont je reparlerai certainement plus tard. Parce qu'à l'époque, il fallait du chiffre et que le jeune typographe Marius Jacob avait créé son propre journal de critique sociale qui s'appelait L'Agitateur. Donc, il était dans l'œil, il était dans le viseur de la préfecture, puisque la France avait très peur à l'époque du mouvement anarchiste qui était extrêmement violent, qui avait par exemple Casero. L'anarchiste italien qui avait tué le président de la République, Sadi Carnot. Imaginons aujourd'hui un président de la République tué à coups de couteau par un activiste politique. C'était un chamboulement et du coup une chasse aux anarchistes qui était très très forte. Et du coup, le jeune Marius Jacob, qui était seulement un intellectuel à ses 18 ans, va être pris au piège par un indic qui va lui donner la formule pour concocter de l'explosif. Donc ça va le travailler, mais c'est que le paradoxe, c'est quelqu'un qui a toujours prôné la non-violence, à la différence de ses acolytes anarchistes. Il avait pour moi une vision, il avait des siècles d'avance. Et la police va débarquer chez lui et va trouver les plans pour faire de l'explosif qui avait été fourni par le policier de l'indic, donc par ce policier-là, parce qu'il fallait faire du chiffre, et ce que les préfectures demandaient. Un système qu'on retrouve encore aujourd'hui, malheureusement, ça résonne très fortement. Et à partir de là, ce jeune Marius Jacob ne va plus trouver de travail, bien évidemment, puisqu'il va faire de la prison, même s'il a été accusé à tort de terrorisme, ça ne va pas l'empêcher de faire 18 mois de prison. Et à partir de sa sortie, il ne retrouvera plus jamais de travail en tant que typographe ou de journaliste. Donc il va décider de mettre ses talents, de mettre son génie au service de la cause des démunis, en braquant directement le capital à sa source, à savoir le coffre-fort. Et il va se lancer dans le grand banditisme en attaquant les plus gros industriels français. Son premier coup, ce sera le Mont-de-Piété de Marseille, qui était l'ancêtre du crédit municipal. Le Mont-de-Piété, je ne sais pas si vous savez, mais c'était les pauvres criblés par la dette ne pouvaient pas rembourser. Donc, ils amenaient des objets de valeur et on leur donnait du liquide en échange. Mais ils ne pouvaient pas rembourser. Donc, les traites s'accumulaient et le Mont-de-Piété, qui vivait sur le crédit, sur la misère des pauvres gens, va être le premier coup d'éclat de Marius Jacob, qui va faire avec son père, d'ailleurs. Donc il y avait quand même dans la famille il y avait un sang assez vif tout de même. Et ils vont se faire passer pour des policiers qui viennent enquêter sur les traces d'un crime atroce. Et Monsieur Gilles, le commissionnaire du Mont-de-Piété, vu que ces gens-là, comme les banques à mon sens, trempent sans cesse dans des histoires louches dont on ne connaît pas les ressorts, mais quand il va voir la police arriver chez lui sur un crime terrible auquel il est lié, dans le doute d'avoir effectivement, il va effectivement donner absolument toutes ses recettes et tous les objets qu'il réquisitionnait des pauvres à Marius Jacob. Il va tellement croire à cette bande de policiers qui sont en fait des bandits que Marius Jacob aura encore une fois le panache de l'amener lui-même à la préfecture et de le faire entrer dans la préfecture pour qu'il aille se plaindre au procureur. Voilà, c'est son premier coup. Donc, à partir de là, il va évidemment être recherché activement par la police, son père va le vendre, ce qui, à notre sens, constitue un marqueur très très fort dans la vie de Marie Jacob, puisqu'être trahi par son propre père, il va se lancer du coup dans une rage totale de braquage. C'est-à-dire qu'après le monde de piété, il aurait pu vivre sur ses acquis pendant un petit moment et se reposer. Mais à partir de la trahison de son père, lui ne se fait pas arrêter et il va enchaîner les coups de plus en plus forts et de plus en plus d'éclat. Après ça, il va attaquer le casino de Monte-Carlo. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Et là, pareil, il va se faire passer pour un joueur qui a une crise d'épilepsie. Et pendant qu'il joue cette crise d'épilepsie, il joue le grand bourgeois, alors que c'est un enfant des quartiers populaires. C'est pour ça qu'on parle d'un Arsène Lupin en chair et en os, parce que c'était quelqu'un qui était capable de se travestir entièrement et de passer dans une classe qu'il n'avait jamais fréquentée, sauf pour l'affronter de manière idéologique. Mais il se retrouve comme ça parmi les grands bourgeois de Monte-Carlo et il va jouer cet épileptique qui tombe à la renverse, qui est amené aux urgences, qui crée l'arrêt total des machines à sous, pendant que son ami acolyte rafle la mise. Fossati s'en va avec. Sauf que là encore, Fossati va le trahir une nouvelle fois, une nouvelle trahison. Et à partir de là, il va décider de s'organiser politiquement et de continuer à monter des gros coups du grand banditisme, mais avec une bande qu'il a appelée les Travailleurs de la Nuit, dans laquelle sa mère d'ailleurs a... Sa mère faisait partie des Travailleurs de la Nuit et ils vont se lancer dans ce qu'il appelait l'illégalisme pour combattre l'illégitime propriété. Lors de son procès que Marius Jacob transformera en plaidoirie politique, il dira « L'industrie nous avait volé, nous voluons de manière industrielle ». Et avec cette bande-là, il va y avoir un code moral très très fort, ne jamais attaquer de riches qui sont d'utilité publique pour lui. C'est-à-dire on n'attaque pas un médecin, on n'attaque pas un artiste, parce que pour lui, un médecin, un artiste sont utiles à la société. Mais par contre, tous les autres industriels, toutes les autres grandes fortunes de France, il faut les piller. Et il va organiser un systématisme. Il va aussi, avec cette bande-là, redistribuer une large partie des gains aux journaux libertaires de l'époque pour pouvoir propager les idées politiques d'émancipation anarchiste. Sachant qu'à l'époque, le communisme et l'anarchisme étaient quelque chose qui était très lié, il n'y avait pas cette séparation qu'on a connue par la suite, pour aider les familles de prisonniers, pour aider les journaux libertaires qui étaient interdits de publication dans ce moment de répression qu'on appelait pourtant la Belle Époque, mais qui n'avait absolument, c'était pas la Belle Époque pour les gens des quartiers populaires, quoi. Il va faire un braquage par semaine. Il va organiser un braquage par semaine. Et avec sa bande, ils étaient capables. Ils vont être capables de braquer plusieurs endroits en même temps aussi. Ce qui rendra complètement fou la police. C'est-à-dire que des gros braquages de grosses fortunes se font quasiment en même temps. Et il va utiliser ce qui était une révolution à l'époque, c'est le chemin de fer qui était tout naissant. C'est-à-dire, pour imaginer pour nous quelqu'un qui utiliserait les nouvelles communications d'Internet. C'est-à-dire que ce serait comme un hacker qui viendrait chercher dans les nouvelles technologies comment braquer le capital à sa source. Là, il va utiliser le chemin de fer. Et à chaque fois que la police arrive sur les lieux, la marchandise est déjà repartie en chemin de fer dans une ville, puis dans une autre, puis encore dans une autre. Il y avait en général 3 villes comme ça. C'était des coups qui étaient extrêmement organisés.
Et du coup, un Robin des Bois, quelque sorte, mais qui n'est pas devenu un Robin des Bois tout de suite. Il a fallu qu'il fasse un bout de chemin, en fait, cet homme.
Ben, il a fallu, oui, il faut imaginer que ses premiers coups, il a 19 ans, c'est quand même très tôt. Je pense que c'est justement la trahison de son père, la trahison de Fossati qui va lui dire, mais si nous n'avons pas de code moral... Ouais. En quoi sommes-nous meilleurs que les riches que nous détestons, que nous arborons et dont nous pensons qu'il faut les détrousser, puisque même détroussent les classes populaires en permanence. Donc oui, il va mettre ce code de l'honneur en place très très vite et malheureusement, il va se faire arrêter, mais la bande était devenue célèbre à l'époque. Il va se faire arrêter en 1905, où, comme je le disais précédemment, il va transformer son procès en harangue politique. Il y aura près de 600 manifestants à Amiens qui viendront soutenir Marius Jacob. Et il va être condamné à 18 ans de bagne, sur laquelle il reviendra vivant, ce qui est complètement dingue quand on voit le
parce qu'à l'époque, le bagne, c'était...
Le bagne de Cayenne. Ouais, le bagne de Cayenne, ils travaillaient, ils étaient dans des lieux... Moi, j'ai pu faire cette pièce et je remercie Jean-Marc Delpech, qui est un historien, qui a écrit un livre aux éditions Nada qui s'appelle « Voleurs et anarchistes », qui retrace la vie de Marie Jacob. Il a aussi travaillé sur la période du bagne, où Marie Jacob a eu un traitement absolument terrible, comme d'autres bagnards, à dormir dans des lieux humides, manger par des crabes. Mais ce n'est pas une métaphore dont je vous parle. Mmh. Et il n'aura de cesse d'essayer de s'échapper en permanence, pendant 18 ans d'affilée. Il n'arrêtera jamais. Et pendant ces 18 ans-là aussi, sa mère va être la seule qui ne l'abandonnera jamais. Et elle passera son temps, pendant ces 18 ans-là, à demander, parce qu'il avait pris perpète, bien entendu, à ce que son fils sorte du bagne, parce que son fils n'avait tué personne. Il a tué une personne au pont de Saint-Rémy, puisque le meurtre également était interdit dans la bande des travailleurs de la nuit. Mais lors de sa cavale, où il se fait arrêter, il y a eu un coup de feu et un échange. Mais elle n'aura de cesse de clamer qu'il ne braquait que les plus riches, qu'il redistribuait une partie aux journaux libertaires, qu'il aidait les familles de prisonniers, qui promulguait l'action non violente, ce qui est une véritable révolution à l'époque. Il faut imaginer qu'un anarchiste était, la violence était extrêmement forte dans les mouvements politiques, et il avait cette clairvoyance-là, que le sang n'entraîne que le sang et n'entraînera que plus de répression sur les classes populaires dont il est issu. Ce qui, à mon sens, l'histoire lui a donné la raison, je pense. Et sa mère va réussir à le faire sortir. C'est pour ça que dans la pièce qui est interprétée par Frank Vrijdes, c'est également un solo. Il joue plusieurs personnages, Fossati dont j'ai parlé, son père. Il joue également Sorel, qui était quelqu'un qui avait abrité Casiero, qui va beaucoup l'aider, Libertad, le Claudican, qui était quelqu'un qui avait perdu ses deux jambes et qui était un propagandiste anarchiste de haute volée et un séducteur inné. Malgré qu'il ait perdu ses deux jambes, il enchaînait sans cesse les conquêtes amoureuses. Il joue tous ces personnages-là et il joue également le personnage qui le suit tout le temps, qui est sa mère. Puisque dans la pièce commence par une Marius Jacob en 1954 à Rueil et il s'injecte une dose létale de morphine.
D'accord.
Et là, parce qu'il est mort, comme ça, il s'est suicidé quand il a vu que son corps l'abandonnait. Il a laissé du rosé pour les gens qui viendraient le chercher dans la panetière. Toujours cette même classe, cette même dignité. Qu'a eu cet homme toute sa vie, qui est un destin hors du commun, encore une fois, pour avoir vécu ce qu'il a vécu et avoir sans cesse cette classe, cette force de caractère, cette maîtrise de soi, c'est pour moi véritablement hors du commun. Et là, il s'injecte une dose létale de morphine et la pièce dure le temps de ce shoot. Enfin, la pièce dure une heure, mais pendant ce shoot et cette montée, cette montée de morphine, il revoit justement les gens dont j'ai parlé, ou en couleur, les artistes aussi, parce qu'il a travaillé avec des circassiens de Medrano, qui l'aidaient à monter au grimpe, aux façades, vous savez, les circassiens qui travaillaient après le cirque pour aller détrousser les grands quartiers de Paris. Et donc sa mère ne le laisse pas mourir en paix. Et sa mère revient pour le garder à la vie et avoir un dernier dialogue avec lui, malgré lui, parce qu'il aimerait mourir en paix dans la pièce, mais il n'arrive pas à se débarrasser de cette mère qui ne l'a jamais abandonné.
Alors Marius Jacob, un Arsène Lupin en chair et en os, tu m'as moi-même transporté cette pièce, je ne l'ai pas vue pour le coup. Je vais venir du coup le 5 mai à la bibliothèque de l'Alcazar.
Ouais, à 18h30 en entrée libre dans l'auditorium.
Voilà, du coup, vous n'avez absolument aucun argument pour ne pas venir. Et alors, ça me fascine quand même ces gens. Ça me fait penser à, on en a parlé juste avant l'émission, plusieurs décennies après, à Marseille aussi, une autre trempe, une autre histoire, et pas à la même époque, mais un homme qui s'appelait Charlie Bauer, qui était un mec qui avait connu Mérine, qui avait été avec lui, qui s'était rencontré en prison, et puis qui avait eu des différends par rapport à certaines choses, par rapport au but final de leur méfait et aussi à l'utilisation de la violence. et Charlie Bauer qui, un peu pareil, avec conscience, redistribuait des sous. Je connais pas bien l'histoire de Charlie Bauer.
Non, non, mais c'est vrai, ça fait penser à ça, ça fait penser à l'inverse sur la violence politique. Il y a eu Jean-Marc Rouillant avec le mouvement d'Action Directe. Ouais. Donc ça serait bien que la justice le laisse enfin en paix parce qu'il a largement purgé sa peine et qui a beaucoup écrit. Jean-Marc Rouillant, comme également a beaucoup écrit Marius Jacob, sauf que encore une fois, le Marius Jacob, lui, prônait l'action non violente et d'agiter les symboles plutôt que les armes. Ça fait penser aussi, on parlait de l'histoire universelle de Marseille écrite par Alessi Dellombria, qui a versé dans le banditisme aussi dans les années 80 et qui avait un clan qui détroussait les banques.
Ouais.
Également. Et ce qui est intéressant quand on commence à fréquenter ce milieu-là, enfin, je suis un bouffon, hein, mais je suis capable de faire ça sur scène, mais je serais incapable de braquer quoi que ce soit. Il n'y a que le théâtre dont ma vie est organisée. Et ce Marius Jacob a été oublié de l'histoire, alors que c'était qu'une star médiatique, on pourrait dire, au moment où il se fait arrêter en 1905, puisqu'il va de coup en éclat et que la police ne l'arrête jamais. Mais s'il a été oublié aujourd'hui, par contre, il est resté dans la mémoire des luttes sociales. Et ça, c'est impressionnant, parce que moi, quand j'ai créé la pièce, grâce aux recherches de Jean-Marc Delpech, mais ensuite, quand j'en parlais, et notamment à Alessi Dellombria, il connaissait très très bien le personnage, et notamment, c'est pour ça qu'on dit Arsène Lupin en chair et en os, parce qu'il n'a rien à voir avec l'aristocratie d'Arsène Lupin, là ouais. où Maurice Leblanc l'a complètement embourgeoisé. Mmh. Et on pense que Maurice Leblanc, donc, qui est le créateur d'Arsène Lupin, a été influencé par Marius Jacob, mais qu'il a toujours refusé de mettre ça en avant parce que c'était beaucoup moins vendeur pour vendre son roman
son
d'aventure.
Son côté populaire. Qu'est-ce qui était moins vendeur?
Ben le côté d'activiste politique.
Ah oui. Il est resté sur juste un bandit, ouais, un petit peu honorable.
Il est resté sur le côté du panache, le côté ouais. classe et le côté de génie, parce que les coups dont je vous ai parlé, braquer le Monte Carlo, braquer des banques, braquer plusieurs fortunes en même temps. Faut avoir un sens de l'organisation. Il connaissait l'annuaire des plus grandes fortunes par cœur. Il connaissait toutes les lignes de train par cœur. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais rien de noté, on ne pouvait jamais rien trouver sur lui, mais il connaissait toutes les correspondances de France, c'était immense. C'est quelqu'un qui travaillait énormément et qui avait une recherche obsessionnelle de la perfection. Pour moi, c'était un maniaque dans le sens de la maniaque, ouais, de la perfection, de l'obsession. Et ce personnage-là est resté, comme je vous disais, Alessi Dellombria, moi j'en parlais avec lui, c'était quelqu'un qui dont il pensait le connaître. Parce que cette mémoire-là de l'activisme politique, qui au bout d'un moment dans la radicalité frise avec l'illégalisme et ce qu'on appelle le banditisme, sont des milieux qui sont pour eux.
Bien sûr, et
c'est resté.
Et aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire là tu nous donnes des exemples de porosité entre le banditisme et le pouvoir et l'argent dans un sens anarchique et plutôt revendicatif voire révolutionnaire. Mais...
Anarchiste, ouais.
Pardon, oui, anarchiste, pas anarchique. Pour le coup, il était très organisé.
Et oui, c'est pour ça, ouais.
Il avait une structure. Mais on a aussi souvent affaire à l'inverse, c'est-à-dire, et à Marseille notamment, mais dans toutes les villes, cette triade classique pouvoir, politique, bourgeoisie marchande, commerçante et mafia. Et là, plutôt dans un sens cynique et pas vraiment pour les gens. Et du coup, c'est intéressant parce qu'entre l'histoire universelle de Marseille et ça, tu viens nous montrer...
Ben oui, je suis entièrement d'accord. Et c'est le Marius Jacob, ça a été justement son fer de lance. C'est-à-dire que c'est face à la corruption des élites, face au vol sans cesse, qu'il a décidé de s'organiser. Lors de son procès, il dira, pour aller dans le même sens de ce qu'on raconte, « Puisque vous me reprochez d'être un voleur, il est utile de définir ce qu'est le vol. La vérité démontre que plus un homme travaille, moins il gagne, moins il produit. » Plus il bénéficie. Le mérite n'est donc pas considéré. Les audacieux seuls s'emparent du pouvoir et s'empressent de légaliser leurs racines. Du haut en bas de l'échelle sociale, tout n'est que friponnerie d'une part et idiotie de l'autre. La société ne m'accordait que trois moyens d'existence, le travail, la mendicité, le vol. Et c'est le vol, donc, qui va choisir. puisque ce qui m'a répugné, il continue, c'est de suer 100 euros pour l'aumône d'un salaire. Ce qui m'a répugné, c'est de créer des richesses dont j'aurais été frustré. Tout homme a droit au banquet de la vie. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. Donc oui, à cet endroit-là, le vol, pour lui, c'est la restitution de la richesse.
Oui, en plus, il vient à la fin d'un siècle où on a eu des gens comme Proudhon, qui ont quand même beaucoup réfléchi sur la propriété privée et publique et tout ça. Et du coup, il est chargé d'un siècle assez puissant, le 19e siècle, avec quand même, il y a eu la Commune, il est en 78, j'ai vu.
Oui, il est juste après, la Commune. Ouais. Mais effectivement, il est dans cette effervescence-là. Et ce qui est intéressant quand on se penche aussi dans la vie de Marius Jacob, c'est que il y avait Proudhon, il y avait Marx, il y avait Bakounine, mais qui sont des auteurs qui, chez nous, ont été presque déifiés ou bannis, selon son obédience politique ou selon sa... Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était beaucoup plus horizontal, c'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas inférieurs intellectuellement à un Bakounine ou à un Proudhon. Bon, Marx, c'est vraiment un monument sur le coup, qui est indépassable à mon sens, en termes de richesse scientifique, mais c'est quelqu'un qui a emprunté les choses partout. Et le but, c'était justement de lier la théorie et la pratique. Alors que chez nous, c'est quelque chose qui nous semble très loin. Dans Proudhon, on le voit, enfin, effectivement, assis à son bureau, en train d'écrire. Et pour lui, les théories anarchistes, les théories communistes, même si ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'était le même... mais c'était encore en germe et que ce n'était pas devenu une idéologie aussi connue, c'était quelque chose avec laquelle il fallait vivre et qu'il fallait mettre en place sans cesse. Et ce Marius Jacob en a eu de cesse, en interprétant plusieurs personnages, en mettant ses travailleurs de la nuit avec lui, de mettre en pratique les idées révolutionnaires qui pour lui n'existaient pas si elles restaient simplement de l'ordre du journal. Voilà.
Eh bien, Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté ces deux pièces. Alors, Marius Jacob, un Arsène Lupin en chair et en os, c'est le 5 mai à la bibliothèque de l'Alcazar, en entrée libre à 18h30. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Marseille, Histoire universelle de Marseille, c'est le 25 avril, samedi prochain, à 20h, au Théâtre du Millefeuille. Vous pouvez aller sur le site du Théâtre du Millefeuille ou sur le site du collectif Manifestorien.
Sur manifestorien.com, vous trouverez l'endroit de réservation pour l'histoire universelle de Marseille à billets réduits. Je le dis parce que c'est une jauge réduite.
Voilà. Ben, Jérémy, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ton travail et pour apporter du théâtre dans cette ville. L'art vivant, c'est quand même merveilleux. C'est beau, le cinéma. J'adore le cinéma. Mais quand les gens, ils suent et ils soufflent devant nous, c'est quand même quelque chose.
Surtout que oui, c'est vrai que là, dans ce que j'ai raconté, ça peut sembler un peu tragique, ce destin de Marius Jacob, mais tout comme l'histoire universelle de Marseille est racontée par l'humour, puisque par la tchatche, et parce que la parole, c'est le trésor des pauvres, par cette mise en scène de soi-même en permanence qu'on utilise l'argüenza et le paratch, la générosité et le défi qu'avaient les troubadours et qu'on utilise toujours sur scène de manière la plus vivifiante possible. L'histoire de Marius Jacob est également un spectacle qui est plein d'humour et de poésie, puisqu'on a gardé l'éloquence, la virulence, l'ingéniosité, l'humour, encore une fois, de Marius Jacob, qui non seulement braquait les plus riches, mais en plus se moquait ouvertement d'eux via ce qu'on appellerait les médias mainstream aujourd'hui, quoi, qui était obligé de le relayer puisqu'il était au devant de la scène, même si on avait voulu l'enfermer dès ses 18 ans.
Oui, tu as ramené sur scène un personnage historique, mais lui, il a ramené le théâtre dans l'histoire.
Yes, je vous invite à venir ensuite si vous voulez confirmer nos dires.
Bon, ben super, je vous rappelle du coup les dates. Le 25 avril prochain, samedi prochain, 20h, au Théâtre du Millefeuille, c'est l'Histoire universelle de Marseille, joué par Virginie Aymon. Et le 5 mai, c'est Marius Jacob, hein, Arsène Lupin en chair et en os, à 18h30, entrée libre à la bibliothèque de l'Alcazar.
Joué par Franck Vraides. Et les deux spectacles donc sont produits par le collectif Manifestorien.
Merci, cher Heure, cher Is, d'avoir été avec nous ce lundi. Ne nous quittez pas, va suivre une chronique enragée, endiablée, la chronique du dé, une chronique politique avec les tripes d'un homme qui a la tchatch, vous allez le voir tout de suite, et qui a pas le cœur rangé dans sa poche ni les dents. Préparez-vous parce que ça va faire mal. Mais en attendant, une petite musique de Kenny Arcana. On se retrouve dans 4 minutes 16.
Ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. Si on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes. Et j'insiste car dans ce bistrot de frères qui vacille. Faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine.
Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars.
Y'a qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3, centre-ville,
quartier sud, quartier nord.
Marseille atterrit dans les chartes, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même. C'est le mec à vouloir faire du fric, mon frère, il s'est foutu dans quelle merde. Des balles envoyées pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles. Les couilles, micro ouvert, j'compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui borcent avec les crocs, comme monsieur borce avec les mots. J'traite pas avec les flûtes, avec les torques, avec les faux. J'vide mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageux, de ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars.
Qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Tu peux pas tester l'esprit rebelle. Pour la vie nos écrits se lèvent. À l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Dédie ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord. M'attirante comme les phéromones. Bouillante comme le vélodrome. Et beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon. Subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler ou à celle des rois tout rose, elle a toujours levé un doigt au béret au couronne. En ce moment ça part en couille, ça parle en douille dans la zone. Comme partout ça cartonne pour de la monnaie. Tout pour les grosses structures, rien pour le mystère. La capitale de la rupture c'est pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars.
Qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille.
Qui a dit que le rap du sud était mort.
Ici le flux est énorme.
1, 3,
centre-ville, quartier sud, quartier nord.
On est bon, on est chaud, mais on n'est pas facho. Ah ouais, c'est une intro toute pourrie, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. On m'a demandé encore une fois de revenir dans La Rosée. La Rosée, une émission tous les troisièmes lundis du mois. La Rosée, c'est plein de choses sympas. Et c'est sur Radio Galère, 88.4. Et à Marseille, la friche belle de... Non, je suis obligé d'augmenter l'accent, parce que sinon, on va croire que je suis parisien. Voilà. Bon, allez, blague à part, c'est une chronique, Ilan me l'a demandé. Alors, Ilan, il est sans prépuce, mais il n'est pas nazi, ça c'est un avantage. Donc, rien à voir avec Netanyahou, hein, pour ceux qui confondraient. Et d'ailleurs, une petite dédicace à Tzedek hein, et à l'Union juive française pour la paix, parce que merci d'être là et merci de faire ce que vous faites et continuer. Hein. Parce qu'effectivement, comme tout le monde le dit, Ben non, il n'y a pas de génocide. Hein. Quand on comptera les morts, on arrivera peut-être à 300 000, mais bon, apparemment, c'est pas assez dans la comptabilité. Mais bon, c'était pas l'introduction, parce que je vous ai même pas dit le thème du jour. Et le thème du jour, c'est quoi? Ben le thème du jour, aujourd'hui, c'est enculé. Alors ça, je sais, vous allez dire, David, le dé, c'est vulgaire. En plus, on sait pas combien de minutes ça va durer. Alors, non, je suis grossier, mais je suis pas vulgaire. La vulgarité, c'est la bourgeoisie. Ah, là, de suite, oui, mais c'est toujours pareil, qu'est-ce que tu racontes? Blablabli, blablabla. Non, je dis rien. Parce que la bourgeoisie, ils appellent le capital, non, mais la vraie grande bourgeoisie, la française, les 0,01%, là, ceux qui détiennent les choses, bah, si tu veux, ils ont lessivé tes parents, hein, ton père, ils l'ont fait bosser, ta mère, ils l'ont fait bosser. Et puis, à un moment donné, tu vois, pourquoi enculer? Ben, parce qu'après, ils attrapent tes enfants, et puis, vu qu'on est dans le thème de la pédocriminalité autorisée en France depuis à peu près 30 ans, en tout cas, moi, je m'y intéresse depuis 1994. Hein. C'est documenté, il y a des affaires qui sont sorties. Alors apparemment, je sais pas pourquoi, mais la police est un peu réfractaire. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de ce que les gens sur ces news appellent les Noirs et les Arabes. Alors j'en mettrai une aussi pour l'histoire des Arabes. Hein. J'en ai ras le cul. Hein. Les Arabes, c'est en Arabie. Hein. Pour tous les gens qui habitent en Afrique du Nord, arrêtez de me gonfler à dire les Arabes. Ou alors c'est que vous avez kiffé la colonisation il y a 1500 ans. À l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'Arabes là-bas, tu vois, mais qui sont venus d'ailleurs, tu vois. Bon, ils ont fait comme d'autres occidentaux, qui étaient venus casser les couilles à tout le monde, tu vois. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas plus d'Arabes que de beurre en manche. Alors, après, ils sont venus, il y a des mélanges et tout, tu vois. Mais bon, moi, je reste un petit peu avec un fond de berbérisme, quand même. Voilà, non, mais c'était des petites annotations. Alors, on revient au thème. Donc, hein, voilà. Donc, la vulgarité, je la laisse à la grande bourgeoisie qui, après avoir massacré ta famille, vient violer tes enfants. Et tout ça, c'est autorisé parce que pendant qu'on se prend la tête à savoir si on dit Epstein, eh ben, il y a des millions de pages qui sont décortiquées et on apprend même qu'il y aurait peut-être des ossements de corps de juvéniles à retrouver sur une île. Et ça, c'est la partie la moins dégueulasse de toute l'horreur, bien plus horrible. Voilà, allez, on attaque. Pourquoi enculé? Mais parce que moi, j'ai été touché. J'ai été touché par Hélène Arnault. Alors, Hélène Arnault, c'est pas la femme de Raphaël Arnault, le fichier S. Vous savez, bon, après, dans ce pays, on est un peu tous fichiers S. Hein. C'est-à-dire que dès que tu refuses de tendre le bras et que tu trouves qu'un point levé, tu vois, de résistance est plus digne, et que tu penses que quand t'es un antifa, en fait, eh ben, tu dois prendre soin des faibles, des gens les plus défavorisés. Tu peux même, des fois, si tu peux, les aider, leur filer un peu à bouffer. Bon, t'imagines bien, c'est pas ce que font les antifa capitalistes de la plaine. Non. Ils font pas ça, eux. Ils font pas ça. Ils seraient plutôt même à pas vraiment aider les SDF, hein, tu vois. Mais bon, de temps en temps, j'ai une hache dans mon sac. Et là, pour l'instant, la dernière fois que je les ai vus, ils m'ont vu, on s'est vus. Et personne n'a été violent envers ce gars un peu fracas qui se balade avec son ours dans son caddie. Mais bon, les amis, vous le savez, hein, si un jour une main de chez vous, elle part, ma hache, elle partira en même temps. Et je reviendrai chez moi avec une main. Ou je reviendrai peut-être pas. Mais bon, je sais que même si vous essayez de venir vers moi, je tomberai avec amour, parce que c'est toujours beau de mourir, c'est toujours une belle journée pour mourir. Maintenant, je sais pas si chez vous, il y en a beaucoup qui sont motivés. Et je vous rappelle, les gars, encore une digression. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dans 3 semaines, à Paris, il y aura 300, 400 nazis. Alors, on fait quoi, les antifas marseillais? On continue à faire de la thune dans des bars, à sucer le capitalisme, et à faire des biais, ou alors on monte faire un petit massacre là-haut, afin de légitimer qu'on arrête avec le nazisme en France, qu'on arrête avec le fascisme en France? Et qu'on se lève un peu l'arrêt, hein, voilà. Bon, c'est vrai que vous avez été hyper actif, hein, quand on voit la fameuse chasse aux fascistes et nazis à Marseille, je rigole, hein, parce que Aloisio et toute sa bande, il m'a pas semblé qu'il se soit passé grand-chose. Et au niveau de Aix, alors, où les Fafa, ils sortent dans la rue, ils s'éclatent, ben, il me semble pas qu'il y ait une grosse résistance, hein, non plus. On pourrait peut-être revoir le truc. Je pense qu'il y a un cheveu qui n'est pas passé dans le houmous, hein, tu vois, il y a un truc qui passe pas, quoi. Mais bon, on peut pas tout faire, hein, frère, moi je le comprends. Hein. Je veux dire, moi déjà, les gens, c'est les amis des bêtes, hein, donc bon, bah, écoute, hein, tant que c'est pas les amis des bites, on est pas mal. Ceci, encore une petite digression en passant. Excellente soirée à l'intermédiaire, ça a rappé à tout va. Et d'ailleurs, petite promotion, Ilan était là. Ilan de Cactus Box et de Why Not. Il y avait aussi Manolo, il y avait plein d'autres gens, il y avait Dams, il y avait JD. Bon, les autres, je connais pas vos noms, mais c'était très sympa. Donc, super l'intermédiaire. Et comme quoi, la séparation, ça a parfois du bon. On continue avec ça. Donc, je reviens. Pourquoi notre amie Hélène Arnault? Parce qu'Hélène Arnault, qui n'est pas la femme de Raphaël Arnault, hein, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hélène? Ben, Hélène, elle a un peu dit des choses pas sympas sur les SDF, tu vois. Hélène Arnault. La femme de Bernard Arnault, le mec qui pèse plus de 160 milliards, je crois, un truc comme ça. C'est à la louche, hein. à la louche. C'est-à-dire que le mec, si tu veux, quand il achète une Porsche, c'est comme toi, tu vas acheter ta baguette. Je te donne une comparaison. En plus, le mec n'achète pas de Porsche, on lui donne. Donc, qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle a dit des saloperies sur la SDF. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, tout le monde l'a chopé, Hélène. On lui a dit sur les réseaux, Hélène, tu serais pas un peu une grosse merde ? Oui, parce que Cuba Pisse était déjà pris par Laurent Nunez. Donc, il restait sac à merde, tu vois. Qui, pour les humains, est une vérité. Hein. Je vous rappelle que tout humain est en même temps un sac à merde et une cuve à pisse. Filles et garçons confondus, c'est la magie. Ouais, même les LGTB QIA+, c'est pareil, ça marche aussi. J'ai rien contre vous, puisqu'apparemment, et ça c'est des bruits qui courent, je fais une deuxième digression, on m'a dit qu'une bande de motards de queer avait repris le petit Nice. Et je suis vachement content, bravo les filles et les garçons. Quoi. Putain, enfin, il y a de la diversité dans les bars de la plaine, et ça fait plaisir. Bravo aux LGTB QIA+, queer à moto, et ça fait super plaisir. Et vivement les nouveaux, comment on appelle ça, les nouveaux logos sur vos blousons, je vais kiffer ça va être terrible. Alors on revient à Hélène Arnaud. Hélène Arnaud, ma chouchou, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir ce qu'on appelle une société de conseil en communication. Et du coup, elle est venue avec un storytelling magique. Elle est venue. Et pourquoi le thème de cette chronique s'est enculé ? Tu vas comprendre. Parce que Hélène, elle nous a tout expliqué. Elle nous a dit, mais moi, ma sœur, quand elle avait 19 ans, elle était amoureuse d'un SDF. Elle voulait tout quitter pour le SDF. Bon, donc le SDF l'a enculé, Hélène. Hein ? C'est ça qu'il fallait dire. Et donc, elle pleurait comme ça. Ah, touché, ma sœur, le SDF. C'est pour ça qu'en fait, je les insulte après. Bon, de la merde. Donc, Hélène Arnaud, tu m'entendras pas, t'entendras pas cette chronique, mais j'espère que t'as entendu celle de la riposte et de Hakim Omiri, qui t'a bien fait comprendre que quand on est un sac à merde, c'est à vie. Hein, voilà. Je coupe la comparaison. Mais dans les sacs à merde, on continue, parce qu'apparemment, sur Radio Galère, vous avez pas entendu parler de François Théry. Un flic corrompu, le pauvre garçon. Alors, c'est le genre de flic, tu vois, qui est un peu le responsable. Tu vois, nous, on a l'OFAST, tu vois, le truc qui lutte contre la criminalité, les stupéfiants et tout. Mais lui, c'est genre le même truc, mais niveau national. Quand tu vois sa gueule, je te promets que même Squarcini qui a été payé par Bernard Arnault pour faire des saloperies. Et Bernard Arnault qui devrait avoir morflé du pénal et qui a payé 10 millions parce que l'État l'a rangé avec une loi à la con qui te permet de pas être jugé, de filer 10 barres et de faire ce que tu veux, même de fouiller les poubelles d'un journal où il y a 3000 abonnés parce que tu crois que t'es en danger parce qu'il y a un mec qui a sorti merci patron. Encore des digressions. Donc je reviens sur cette brave Hélène hein, et sur ce brave François. Donc ce flic corrompu, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ben, déjà, il a une sale gueule. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, le mec, il a permis des déplacements de cannabis, mais pas n'importe où, dans le 16e arrondissement. Plus de 7 tonnes saisies. Donc le mec, bien sûr, un petit procès qui arrive. Et là, au procès, magie du truc. Qui c'est qui morfle à la fin ? C'est pas lui. C'est le trafiquant avec qui il était lié, qui est déjà emprisonné au Maroc. Et il prend 20 ans en France. Et qu'est-ce qu'il a pris, François Théry ? Ben, François Théry, il a pris un an avec sursis. Et il a pris une amende ? Non. Bon, normalement, il devrait plus pouvoir exercer. Mais là encore, c'est pas sûr et c'est pas fait. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'en ai ras le cul. Parce que le gouvernement, et avec toutes les belles saloperies, alors parce que le socialisme étant le premier traître de France, et qui ressemble de plus en plus au LR, qui ressemble de plus en plus à une droite extrême, qui est de plus en plus proche du Front National, qui est devenu le RN, qui est l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils veulent voter cette fameuse loi. C'est la loi sûre de tous vous niquer. C'est-à-dire, t'es pauvre, tu morfles, t'es riche, eh bien, tu plaides coupable. C'est de la merde, mais tu payes. Et quand tu payes, il y a bon. Donc, c'est encore une enculerie. C'est pour ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. On continue sur les enculeries, mais alors, on monte dans le niveau. Là. On monte dans le niveau, on reste toujours au niveau national. Hein, parce que j'ai fait loco-local au début, on a grandi un peu la région, et puis hop, national. La loi Yadan, Caroline Yadan. Alors Caroline, elle est députée. Elle est députée des Français de l'étranger, mais de où ? Bah d'Israël. T'es con ou quoi ? Hein, je te rappelle, c'est un truc normal. Donc Caroline, elle dit quoi ? Bah, elle dit déjà qu'il n'y a pas de génocide. Ben non, il n'y en a pas. Et puis de toute façon, Gaza n'a pas été détruite à 90%. C'est un mensonge, c'est 92%. Et donc cette loi, elle est horrible. Elle est horrible. C'est-à-dire que là, tu es dans les pires lois racialistes. C'est-à-dire que même Debré et Pasqua, ils sont en train de se retourner dans leur tombe. Tu vois, ils font des tours comme ça. Même les mecs qui faisaient les lois racialistes en Algérie, ils sont en train de se poser des questions. Ils se disent, non mais ils sont morts aussi. Je crois que même Maurice Papon, il a fait un demi-tour. Par là, on a un gros niveau d'ordure hein, quand même. Donc Caroline, bravo. Tu viens de... Je dirais d'intégrer un comité magique. T'es magique, Caro. Continue à nous faire rêver. Et surtout qu'en France, vous avez compris, vous pouvez faire des pétitions. Hein. Vous pouvez faire des gilets jaunes. Alors, Les pétitions, on n'en a rien à foutre. Et les gilets jaunes, on vous tire dessus, on vous nasse par 60, on vous met 3 mois de sursis avec 2000 euros dans le cul. Et puis fermez-la. Et quand on chope les flics et qu'on leur dit « Mais pourquoi vous lui tapez 17 fois dessus ?» Eh ben parce qu'il avait de l'intention méchante. Mais il avait les bras en l'air. Ouais, mais vous avez pas vu ses yeux. Donc, la police de Vichy nationale, vraiment extraordinaire. J'ai déjà eu affaire à vous pour rien depuis ma jeunesse. Hein. Parce que, tu sais, la police, il suffit que tu cours, t'es coupable. Je cours, je suis en retard, je vais chez le kiné, je vais faire ma rééducation. Non, non, bien, bien, je vais te recasser le poignet d'abord, pour être sûr. Tu vois, voilà, moi c'est ça, ma découverte de la police quand j'avais, j'allais sur mes 16 ans. Et depuis, je les aime tellement. Je les aime tellement que dès qu'il y en a un qui décide de faire un geste d'amour en suicidant, je fais un apéro pour le remercier. Non, mais sans méchanceté, hein. C'est parce que je trouve que quand on a une arme de service, il vaut mieux se la décharger dessus que de tirer sur tous les petits jeunes qui passent en disant « Non, mais c'est normal hein, !» C'est toujours pour des histoires de « Bon, ben, il avait une intention douteuse. Hein. » Il avait une intention douteuse, c'est dur. C'est dur, c'est trop dur. Allez, on a grandi. On a grandi le thème de l'enculerie. Alors, Guima Hassan, j'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à faire. Soyons un peu polis. Hein. Grossier, mais pas vulgaire. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est la désinfo. C'est là l'intoxication du Parisien. Oh, le Parisien, bon, c'est à qui vous appartenez. Vous êtes censé avoir des journalistes. C'est-à-dire que quand on raconte des conneries, parce qu'il y a une taupe au Comico qui est là à vous dire « Oui, vite, 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 j'ai des infos pour vous. Vous voulez, Cérim Hassan, vous voulez ?» Mais c'est pour tout ça. C'est-à-dire, c'est les ordures qui, tous les jours, t'appellent pour te filer les faits divers. Et il y a une très bonne émission, d'ailleurs, sur les faits divers pour vous montrer comme c'est étudié. Je fais que des digressions aujourd'hui, depuis très longtemps, et que l'important, c'est le fait social. Quand on peut, justement, commencer à réfléchir et à agrandir la chose, et non pas le fait divers, simplement pour... on va dire, diviser encore une fois et ne surtout pas apporter une info valide. Voilà, ça c'est très important. Donc Rima Hassan, chopé avec de la drogue, c'est de la drogue, elle est pourrie. Donc la nana est quand même juriste, au moins un bac plus 5. Et donc la nana va au commissariat avec de la drogue, bien sûr, à fond. Et le problème c'est quoi? C'est que quand tout est analysé et que tout redescend, eh ben il n'y a plus un média mainstream qui en parle, il y a seulement les médias indépendants. Alors nous, on est dans l'entre-soi des médias indépendants, les gars, tu vois. Donc c'est sûr qu'à la base, nous, on est au courant. Mais la majorité des Français et des Françaises, hein, ne sont pas au courant et c'est triste. Voilà. Donc voilà, j'ai rien ni pour ni contre Rima, mais par contre, faut arrêter de dire de la merde sur elle et surtout quand les choses sont pas faites, surtout si à la fin, c'est juste pour la juger pour apologie de terrorisme. D'ailleurs, je rappelle encore une fois, allez lire l'article de l'ancien juge, là, Tribic, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit qu'en fait c'est de la merde, que déjà il galérait parce que c'est très flou les lois sur le terrorisme en France, et que là ça allait être encore pire. Donc déjà on galère avec les juges, on galère avec les moyens pour les juges, ils ont peu de temps, ils ont peu de ci, peu de ça, et en plus on les arnaque avec des fausses lois. Mais bon, c'est pas grave, on continue toujours avec le national, hein, parce que nouvelle loi, la loi sur la fraude fiscale et sociale. Alors fiscale, c'est pour déconner, hein, parce que je te rappelle, à peu près entre 80 et 100 milliards de fraudes fiscales des entreprises, qui sont au minimum sur les 10 dernières années à peu près, hein. Allez, on est à peu près sur ça chaque année. Et la fraude sociale, c'est à peu près, allez, ça a augmenté, hein, il y a 10 ans c'était 2 milliards et demi, maintenant on est monté à peu près un peu plus de 10 milliards. Mais ce qui est marrant, c'est que sur 10 milliards, il y aurait peut-être réellement peut-être que 2 milliards de vraies fautes de nous, de fraude de nous, les pauvres, on gratte l'argent. Non, parce que les autres, c'est quoi? Ben, c'est des non-déclarations, hein, ah non, du travail dissimulé. Donc c'est encore de l'arnaque, c'est encore de l'arrangement. Et ce qui est magique dans cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, hein, chez Macron, sauf là, les 2 millions qu'il a planqués, qu'on ne retrouvera jamais, lui et Jean-Michel. Brigitte, pardon, excusez-moi. Non, parce que j'ai vu un t-shirt magnifique, encore une digression, et dessus, il y avait marqué « Where is Jean-Mimi ?» Emmanuel M. Ask for. Et vous savez quoi? C'est une super marque de vêtements. Autopromo. Et elle se trouve au 61 boulevard de la Libération, angle de Saint-Sabournin de Libération. Ça s'appelle, le magasin s'appelle César du Panier. Et la marque, c'est AJCIADC. Il y a plein de trucs comme ça à la con à prendre. Mais c'est sympa de les porter, tu vois, parce que ça fait réfléchir les gens, tu vois. Genre, un bon macho, c'est un macho fort. Et si t'as pas compris qu'il y avait une contrepétrie, il faut que tu retournes à l'école. Et si tu sais pas ce que c'est qu'une contrepétrie, alors à ce moment-là, pose-toi des questions ou pose des questions à des amis. Et puis si t'as pas des amis, pose-toi vraiment des questions là. Voilà, ça c'était vite fait, parce qu'il fallait en parler. Et on finira, parce que j'ai vraiment outrepassé le dépassement, avec le mensonge d'État de Le Cornu, Premier ministre, de Amélie de Montchalin, qui maintenant a un poste à vie, vraiment dans un lieu sinistre, hein, qui normalement sert à nous aider, mais là nous dessert à fond. Et je parle pas de Rougerie avant ou d'autres... d'autres gens de la sorte, cette brave cavalerie de gens enculés, hein. Voilà, voilà, ça revient toujours au thème. Donc le cornu a menti, hein. Le cornu, prenant à partie Mathilde Panot, alors encore une fois, j'avais rien à foutre de Mathilde Panot, rien à faire, pardon, et il lui dit, ouais, mais ça fait 3 ans, je vous le dis, on n'a jamais vendu une arme à Israël, et le lendemain, ou 2 jours après, le ministre de la Défense israélienne qui dit, nous arrêtons ce jour d'acheter des armes à la France. Et donc, le mec n'a pas menti à la représentation nationale, et en plus, et c'est bien avec lui, parce qu'il te le dit, il n'a pas menti depuis 3 ans. Amélie de Montchalin. Non, mais on saurait s'il y a des gens, des millionnaires qui payent pas d'impôts en France, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, t'apprends, il y a une note qui sort, 13 800 millionnaires qui payent pas d'impôts, frère. Et pourtant, elle a été, comme on dit, upgraded. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait monter, tu vois. Step up. C'est hallucinant. Et personne ne fait rien. Alors, pour les gilets jaunes, moi, je vous en veux pas. Hein, j'y étais aussi. Je sais qu'après avoir pris du sursis et des amendes, on n'a plus trop envie de retourner. Je te parle même pas des mutilés, des frappes à vue et tout ceci, tout cela. Simplement, je vois plus trop ce qui nous reste comme choix. La révolution, bon, moi, j'ai toujours été pour. Hein, je vous ai jamais menti. Je sais pas où on va. Je sais pas comment on y va. Mais franchement, c'est triste. Alors, pour terminer sur une note joyeuse, comme dirait l'autre... Voilà, comme je te le disais, pour terminer sur une note joyeuse, je te propose de t'écouter Le Chant des Partisans, ou alors hein, une chanson d'amour, ou alors tu descends dans la rue et le premier nazi que tu vois, tu lui mets un coup de pied au cul. Allez, prends soin de toi, parce qu'il n'y aura jamais personne qui pourra mieux le faire que toi. Je t'aime, le combat continue. Auditrice, auditeur de Radio Galère, c'était L'Arrosé. L'Arrosé, 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 L'Arrosé.
Le côté espion présent à tente de leur retour. Bomba!
En soi, là, ma porte, obligé d'appuyer sur pause au magnétoscope. Juste au moment où ça commençait à filer dur, où le gentil se fait décalquer contre le mur. J'ouvre, je sors, qui c'est?
C'est nous, on monte!
Il me dit, habille-toi, on dégage dans quelques secondes. Direction la frontière pour aller à Aix. Dans un vernissage d'art contemporain, tous dans le break.
Timothée en avant, le soul swing est avec nous. Il y a aussi Kader Brahim, la Sade Wari dans le coup. 30 minutes après, nous arrivons à Aix, où l'on perd le pointu, où les jeunes sont vex. On fait donc une entrée. Remarqué dans l'atelier, les picassettes sont en plein effet devant le buffet. Je vois les autres en compagnie de femmes parler de peinture. Malek s'intéressait à la culture.
Ah, je suis ballonné car je n'ai pas digéré les sandwichs de la soirée d'hier du côté de Terrier. Tout autour de moi le spectacle est dur. Culture, peinture, sculpture. Mais je vois dans le fond nourriture. Un coup d'épaule à droite, un coup d'épaule à gauche. Virez-vous mesdames que je m'en mette plein les poches. Je retraverse la salle pour boire un punch coco. Quand j'aperçois Chill planté devant un tableau.
C'est neuf, ah il a fait exprès, c'est un objet de culture. Vous me ferez signe quand vous l'aurez version adulte. Car si cette chose est un tableau, ma sœur de 10 ans s'appelle Picasso. Un mec s'est approché et m'a dit, cet auteur a du cœur. Ah ouais, un polonais qui utilise plus de 2 couleurs. Si je ne me trompe, son style, c'est du merdique au cubique, au débile, au gribouillage abstrait.
C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les deux pieds dans le plat. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les deux pieds dans le plat.
Quelque chose m'intrigue à quelques pas de moi. Il y a un attroupement autour de je ne sais quoi. Je me rapproche, jette un œil. Oula, c'est quoi ça?
C'est de l'art, mon cher, au cas où vous ne le sauriez pas.
Je ne vois pas où il veut en venir, c'est pas que c'est moche, mais il la perd avec l'oreille gauche. Tout le monde me regarde d'un air indigné. Quoi qu'est-ce qu'il y a, c'est pas de ma faute si c'est laid.
Un autre me demande, qu'est-ce que tu penses de ce délire? Je lui ai dit, l'auteur abuse des cigarettes qui font rire. Et j'ai pris du ketchup dans ma main droite. J'ai choisi un tableau bien visé, splash. Bien entendu, il y a bien eu 7 ou 6 couillons, les cheveux dans le genre code froid de bouillon pour s'extasier devant la tâche. Ce peintre est un chef, admire la perspective. Oh, les couleurs, quel relief.
Mon estomac me tiraille, il faut que je ravitaille ma panse. Je localise ma cible et je m'élance. Droit sur le buffet, arros sur les crevettes et le saucisson.
Je pourrais avoir un jambon non, c'est bon, hein.
Je continue à goûter tout ce qu'il y a sur la table. Liquido solide. De tout y passe, rien ne m'échappe. Je mords une biscotte et je sens le caviar.
C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les deux pieds dans le plat. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Un attentat violent, les deux pieds dans le plat.
Ne touchez pas la radio.
Bonjour, je suis le fameux peintre en exil stable. Moi c'est Chill, 25 ans, élevé au patentos. Voici Messire Imhotep, président de notre ascense. Sans deux mots, le boss de la rose et du matos. Mais dis-moi, tu flingues de la laine, c'est. Ouvre la bouche et les accords de Genève sont violés. Ainsi que 20 résolutions sur les armes chimiques. C'est bien beau d'être artiste, mais la douche ça existe.
Je sors des WC et j'ai encore les glandes. Je dois me défouler et ce sans plus attendre. Je fouille dans mes poches, j'en sors un stylo. Puis m'approche discrètement d'un tableau. Je regarde autour de moi, bon, personne. Le Z de Zoro, ouais, je cartonne. Soudain, arrive derrière moi de crétin cosmique.
Génial, cette lettre symbolique. Après avoir terrorisé tous ces artistes ivres, craché des noyaux d'olive dans la tronche des convives. Après avoir éteint, rallumé, les néons. On est parti et tous ces nez plein de schnouf. Une voix, la porte fermée, on poussait ouf. De ex-apériés, les concentrés de les voix. Qu'un jour ou deux ans après, Ayam fait toujours des attentats.
C'est un attentat violent, les deux pieds dans le plat.
Cela est fort joliment dessiné.
La rosée.
La rosée.
Une émission culture et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live. Tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h, sur Radio Galère 88.4.